C'est presque sérieux.
Sur la première.
Et nous recevrons Jean-Michel Jarre aujourd'hui pour son album Electronica Volume 2, The Art of Noise.
Voilà, ça c'est fait.
C'est vrai qu'on peut le brouter. Depuis tout à l'heure dans le bureau, il n'y a que ça.
Hein, oui. On a fait toutes les versions.
Ça dit qu'on en a déjà marre. On ne sait pas si ça vaut la peine qu'il vienne.
Non, mais il viendra.
Jean-Michel, si tu nous écoutes, fais demi-tour.
Et il viendra pour nous parler de cet album avec pas mal de collaborations. À l'intérieur de cet album, on vous offrira d'ailleurs un exemplaire de l'album Electronica Volume 2, The Art of Noise, qui sortira lui le 6 mai prochain. L'invité, oui, l'invité n'est autre que Jean-Michel Jarre. C'est un petit peu, un peu notre enfance, le gourou à la harpe laser qui ressurgit avec une double salve de collaboration. Jean-Michel Jarre, ce sont 23 albums, 40 ans de carrière, 80 millions de disques, producteur, parolier, compositeur, notamment de Christophe ou de Patrick Juvet, pour ne citer que...
Non mais il le sait tout ça, il est là, il vous écoute, il s'en fiche.
Des méga concerts, on garde en tête forcément le concert au pied des pyramides de Gizeh, en tout cas moi je garde un souvenir impérissable, c'était pour le passage de l'an 2000, au pied de l'Acropole à Athènes également. Jean-Michel Jarre, c'est l'homme des records.
Bientôt sur le piétonnier, à Bruxelles.
Pourquoi pas, en tout cas 1 million de spectateurs en 79 à la Concorde, 2,5 millions de personnes pour un concert à la Défense, et là vous rentrez également dans le livre des records. Vous êtes premier occidental à avoir joué en République populaire de Chine depuis la mort de Mao, et puis il y a un album qui fait la différence, un album qui vous met en lumière, c'est Oxygène, après deux premiers albums, un album qui cartonne, plus de 18 millions de ventes. Oxygène 76 marque le début donc d'une carrière prolifique, et vous revenez 8 ans après votre dernier album avec Electronica 1 qui a cartonné, placé dans pas mal de pays, et là Electronica 2 avec pas mal de collaborations. Jean-Michel Jarre, bonjour.
Bonjour, c'était une longue introduction. J'ai plus rien à dire.
C'est normal. 40 ans de carrière, je peux pas résumer ça en 5 secondes, Jean-Michel.
Non, mais c'est vrai, c'était très aimable à vous.
Il faut quand même à un moment donné.
Ça me touche énormément.
Il faut quand même dire, voilà, qu'il y a du travail.
Faut dire les choses.
Il faut dire les choses. Et disons-les bien. Jean-Michel Jarre, justement, Electronica 1, l'album est entré dans le top 10 dans pas mal de pays, 25 pays à travers le monde, a été salué par les médias. Le Guardian a notamment écrit en rassemblant un casting aussi prestigieux. Jarre nous rappelle son statut de pionnier, effectivement, musique électronique, vous êtes le pionnier. Et Electronica 2 avec des duos, Pet Shop Boys, Jeff Mills, Cyndi Lauper, Christophe, Edward Snowden. On en parlera d'Edward Snowden dans un instant, mais c'est une tradition également dans cette émission. On donne une minute à l'invité pour nous parler de son album, de son œuvre, et donnez-nous envie de nous procurer Electronica 2 en une minute. Mon cher Jean-Michel Jarre, c'est parti.
Alors, Electronica 2 fait suite logiquement à Electronica 1, qui est un projet un peu comme Kill Bill 1 et Kill Bill 2, c'est-à-dire c'est le même projet, c'est le même album, sauf que tout le monde m'ayant dit oui sur ce projet de collaboration, je me suis retrouvé avec près de 2h30 de musique, donc il fallait le séparer en deux parties. Electronica, c'est en fait un rêve que j'avais de réunir autour de moi des gens qui sont des sources d'inspiration, qui ont été des sources d'inspiration, qui sont liés directement ou indirectement à la technologie et à la musique électronique, bien sûr. Et le principe que j'avais, c'était d'abord de me déplacer, c'est-à-dire d'aller les voir pour partager le processus créatif ensemble, physiquement. Et puis l'autre chose aussi, c'était de composer en fonction du fantasme que j'avais pour chacun d'eux, et en leur laissant suffisamment de place pour que eux-mêmes puissent ajouter leurs pattes. Voilà, en moins d'une minute.
Ah, il reste encore 10 secondes.
Bon, eh bien, je suis très heureux d'être en Belgique pour pouvoir vous parler d'Electronica 2 qui sort le 6 mai.
Le 6 mai, Electronica 2, on disait pas mal de collaborations.
Ça, c'est Maurice Jarre qu'on entend derrière.
Oui, c'est votre papa. C'est le papa, effectivement.
Exactement, qui essaie de s'immiscer. Je le sens bien. Je sens bien qu'il s'immisce quand je suis en train de parler.
Le poids de l'atavisme.
Exactement. Il y a effectivement une génération de Jarre liée à la musique. Tiens, justement, The Art of Noise, est-ce que c'est un hommage à Luigi Russolo, ce compositeur italien
Oui, en fait, The Art of Noise, c'est un clin d'œil en fait à quelqu'un qui était un futuriste au début du XXe siècle, un Italien, qui avait prédit que les musiciens dans l'avenir, avant l'invention et le développement des techniques d'enregistrement et de la musique enregistrée, au fond, les musiciens allaient pouvoir explorer des tas de timbres inconnus jusque-là et dépasser les timbres de l'orchestre symphonique avec les outils technologiques qui seraient à notre disposition. Et il s'est pas trompé, le bougre, puisque il a eu raison, puisque la musique électronique aujourd'hui n'a plus de frontières et qu'on est au fond un peu comme des cuisiniers ou des peintres en pouvant mélanger des épices ou des textures, des couleurs. Et les DJ sont finalement les arrière-arrière-petits-fils de ce monsieur Rousseau Solo. Et donc, The Art of Noise, c'est aussi un clin d'œil parce que c'est The Art of Noise au cœur du bruit. Mmh. Et évidemment, tous les gens avec qui j'ai collaboré sont au cœur du bruit et d'un bruit plutôt agréable.
Un grand écart aussi entre les futurings, vous le disiez, avec le gratin de la musique électronique. Pourquoi pas David Guetta?
Bah, en fait, il y a des remixes. Ah, non, ouais. Non, pas du tout. C'est pas du tout un piège parce que j'ai beaucoup d'affection et de respect pour David Guetta.
Raté, Walid.
Moi, je pose une question.
Non, pas du tout. Mais je vais répondre.
Parce que pour certains, non, lui, c'est pas ça.
C'est qu'en fait, il y a plusieurs couches de collaboration, mm-hmm. si j'ose dire. Et en fait, j'ai envie de travailler éventuellement avec des DJ plutôt pour faire des remixes que par rapport à la collaboration sur des morceaux qui pour lesquels j'avais des raisons très précises pour chacun d'eux.
Donc vous étiez déjà arrivé à la base avec
voilà et donc j'aurais absolument pas du tout je serais absolument pas contre du tout un jour travailler avec quelqu'un comme David Guetta, bien qu'aujourd'hui il fasse plus de la pop pour moi que de la musique électronique. C'est plutôt aujourd'hui un producteur de pop musique que quelqu'un qui appartient pour moi à la scène électro. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle il n'aurait pas sa place dans ce projet électronique.
Alors justement, dans ce projet, on l'a dit, pas mal de collaborations. Et qui ça a été le plus difficile de travailler? Ou le plus facile? Avec qui ça a été le plus vite dans le processus de création de la
Finalement, ce qui est très étrange, c'est que je m'attendais à avoir beaucoup de difficultés. J'ai eu des difficultés sur le plan du temps. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça a pris 5 ans parce qu'il y a des gens, par exemple, comme les gens de Bristol, par exemple, semblent être dans un autre espace-temps que le reste du monde. Massive Attack, par exemple, ça nous a pris 2 ans et demi.
2 ans et demi avec Massive Attack.
Entre le début, ils étaient très enthousiastes. Hein, ouais. Robert Denalja qui a rendu très... On a eu le temps de devenir très amis, forcément.
Mm-hmm. Ouais, en 2 ans et demi, on crée des liens.
Mais ça s'est globalement, et même d'ailleurs complètement, très bien passé. Et je crois qu'il y a une raison à ça. C'est que dans la scène électronique, il y a peu de groupes, il y a peu de gens qui travaillent ensemble. Finalement, quand il y a des groupes, ce sont des duos comme Daft Punk, comme Air, comme Chemical Brothers, comme Pet Shop Boys. Et finalement, c'est assez rare qu'on puisse se retrouver au départ d'un processus créatif ensemble. Et finalement, on s'est retrouvé un peu comme des sales gosses en disant tiens, viens donc dans ma chambre pour je vais te montrer mes jouets. Et c'était un petit peu ça. Et donc il y a un côté geek chez tous les gens que j'ai approchés. Et finalement, on a eu beaucoup de plaisir une fois qu'on a été ensemble les mains dans le cambouis. Ça a été finalement assez simple et assez jubilatoire.
Alors Jean-Michel Jarre, petit retour en arrière, c'est ça. On l'a tellement fredonné dans le bureau, ce morceau.
Et pas que dans le bureau.
Et pas que dans le bureau.
Ça vous a rapporté combien, ça? Je veux dire, en réutilisation de génériques, de radio-guidage, de météo... Parce que celui-là, il a été...
Ce que ça a rapporté, je peux pas vous le dire au cours des années, c'est pas une langue de bois. Ce qu'il faut réaliser par rapport à ça, c'est qu'on est dans une période où aujourd'hui, la crise de la musique est telle qu'il y a plus de droits d'auteur, ouais. Et c'est un problème dont on parlera peut-être. Mais, à cette époque-là, il y avait autre chose qui était un problème, c'était les producteurs. Qui en fait, j'ai gagné beaucoup moins d'argent sur Oxygène que ce qu'on peut penser.
Oxygène, au départ, les maisons de disques vous l'ont refusé.
Voilà, les maisons de disques l'ont refusé pratiquement toutes, en se disant qu'est-ce que c'est que cette musique. Il n'y a pas de batteur, il n'y a pas de chanteur, il y a des morceaux de 10 minutes, ça passera jamais à la radio. Et en plus, pour les Anglais ou les Américains, en plus il est français. Donc, et puis finalement, c'est un petit label français, le label Dreyfus, qui l'a sorti. Et puis, ça a démarré gentiment parce que il y avait des gens qui au départ ont renvoyé l'album à la maison de disques parce que, vous souvenez, le début commençait avec une sorte de bruit de vent comme ça.
Ils pensaient
qu'il y avait un problème technique. Et puis l'autre chose, c'est qu'un jour, je me baladais sur les Champs-Élysées et mon éditeur et producteur de l'époque, Francis Dreyfus, on se baladait comme ça et on voit sortir d'un disquaire Elton John avec 10 copies, avec 10 exemplaires d'Oxygène. Et je me souviens toujours que Francis Dreyfus m'a dit à ce moment-là, tu crois, je pense que ça va être un succès.
Ah ben voilà l'histoire d'Oxygène. Et l'histoire d'Oxygène, 40 ans après, justement, voici ce que ça donne avec Electronica 2, extrait de cet album que je vous invite à vous procurer. Il sortira le 6 mai prochain chez tous les bons disquaires et en plateforme digitale. Écoutez. Voilà. Signature. Ouais. Ouais. L'avantage, c'est qu'on reconnaît vraiment toutes les signatures des artistes.
Oui, c'est ça qui était le jeu, c'est de pas faire des choses à la manière d'eux, mais d'arriver à mélanger de manière un peu qui m'adresse.
Vous parliez de pop tout à l'heure. Les Pet Shop Boys, pour moi, c'est
presque la quintessence de la pop, justement.
Non, c'est la rencontre de la pop avec la musique électronique, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'au début, dans les années 80, c'est la grande explosion de la musique synthétique anglaise, britannique, puisque faut pas oublier qu'au départ, la musique électronique, ça n'a rien à voir avec le format pop américain, le blues, le rock ou le jazz. C'est vraiment une musique d'Europe continentale qui vient de France, de Belgique, d'Allemagne, qui vient de notre héritage, la musique classique, ces longues pièces instrumentales. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le rock, quand il n'est pas anglais ou américain, bah, il lui manque quelque chose parce qu'ils sont les originaux. Mais en revanche, la musique électronique, la scène française, belge, allemande, au cours de l'histoire de ces dernières décennies, est
un berceau de la musique électronique.
Oui,
effectivement. Jean-Michel Jarre et cet album Electronica 2 qu'on découvre ensemble et que nous vous offrons.
C'est presque sérieux.
C'est la première.
Jean-Michel Jarre, Electronica 2, on en parle avec lui, notre invité presque sérieux.
Excusez-moi, mais là, on a le pape de la musique électronique et Sylvia Zellery qui sort son ukulélé, je trouve qu'elle a un cul au monstre.
Ouais, mais il aime la musique, Jean-Michel Jarre,
en général. C'est la papesse du ukulélé.
Voilà, c'est la papesse du ukulélé. Tiens, Jean-Michel, avant de laisser Sylvia Zellery interpréter un morceau et l'actualité, comment est-ce que vous allez faire pour faire un concert en réunissant tous ces gens-là? Est-ce que vous y pensez déjà?
Alors, en fait, je suis en plein dedans, je suis en train de préparer la tournée qui va démarrer au mois de juin. Et en fait, l'idée est simple, c'est que je veux d'abord mêler aussi les on parlait d'oxygène tout à l'heure, mais les morceaux existants non pas en les remixant, mais en les reproduisant avec un son 2016-2017. Et puis, il y a beaucoup de morceaux instrumentaux dans Electronica 1 et 2. Et puis, dans les parties vocales, il y a d'ores et déjà, au fil de leurs agendas et de leur planning, des artistes qui viendront me rejoindre, donc qui feront que chaque concert sera un peu différent.
C'est presque sérieux.
C'est la première.
On va marquer une petite pause et revenir justement dans cette aventure avec celui qui est le pionnier de la musique électronique et pas mal de collaborations à l'intérieur de cet album, Pet Shop Boys, Jeff Mills, Cyndi Lauper, Christophe et Edward Snowden. Pourquoi Edward Snowden? Eh bien, vous le saurez dans la suite de C'est presque sérieux. Restez avec nous. On marque une pause et Jean-Michel Jarre est notre invité presque sérieux en ce vendredi. Tiens, on vous l'offre d'ailleurs Electronica 2. Hein. Envoyez Electronica par SMS au 6031-70. 5 centimes le message, nom, prénom et adresse. À tout de suite.
La première.
16h-17h30, c'est presque sérieux avec Walid.
Pas que, et pas que, bien entouré en ce vendredi, il y a Fred Dubus.
Oh non, pas si bien que ça.
Il est fâché, Fred Dubus, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a?
Non, mais il va pas encore retomber.
Il y a Manu Di Pietro.
Bonjour, dites.
Il y a celle qui nous a enchanté avec son petit ukulélé, avec une reprise, hommage à la fois.
Vous ne l'engageriez pas à The Voice?
Bah, écoutez, oui, je la prendrai bien dans The Voice, l'année prochaine.
On en discute?
Ah ouais, on en discute.
Une vedette américaine.
C'est Sylvie Zarelli. Il y a Raoul Reyers.
Je crois que je vais aller manger tout près du piétonnier.
Par solidarité, c'est vrai. Il y a Vincent Flibussier qui nous racontera des histoires dans un instant.
Avec grand plaisir.
Et puis, le maître. Incontesté de la musique électronique. Il nous revient après 8 ans d'absence. Il y avait Electronica 1 que vous avez certainement, si vous ne l'avez pas, procurez-le vous, parce qu'il y a pas mal de pépites à l'intérieur. Après 23 albums au total, il y a Electronica 2, The Art of Noise, avec à l'intérieur des duos, des featuring comme on les appelle, les Pet Shop Boys, il y a Cyndi Lauper, Christophe. On n'attend pas en musique électronique et pourtant vous avez déjà travaillé avec Christophe au niveau des paroles de l'écriture et Edward Snowden. Alors, question à Jean-Michel Jarre.
C'est un maître chanteur.
Pourquoi a-t-il invité l'homme qui a révélé les systèmes d'écoute illégaux aux États-Unis sur son album?
Mais il a
alors,
le son.
Comment est venue la genèse de cette histoire?
Alors en fait, c'est un des thèmes récurrents d'Electronica 1 et 2, c'est le rapport ambigu qu'on a avec la technologie. C'est-à-dire que d'un côté, on a le monde dans notre poche à travers notre smartphone, et de l'autre côté, on sent bien qu'on est espionné un peu partout. Et puis, moi, j'étais en plein enregistrement de ce projet Electronica quand j'ai entendu parler, comme nous tous, d'Edward Snowden. Et finalement, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché et qui m'a fait, bizarrement, penser à ma maman, qui était une grande résistante pendant la guerre, qui s'est engagée dans la résistance début 41. C'est-à-dire à une époque où, les Français ne le disent pas, mais les résistants n'étaient pas du tout populaires, étaient considérés comme des fauteurs de troubles, sinon comme des traîtres par certains, puisqu'ils s'opposaient au pouvoir en place. Et au fond, Edward Snowden, c'est un peu ça. Il s'oppose au pouvoir en place en disant non pas stop, mais attention à l'abus de la technologie. C'est ça qu'il nous dit. Et je trouve que en cette période où toute la jeune génération étant un peu en manque de référence ou est attiré par le populisme d'un côté de l'Atlantique par Donald Trump, de l'autre côté par Marine Le Pen, plus par rejet du pouvoir en place justement qu'autre chose, voilà quelqu'un qui questionne le pouvoir en place d'une manière plutôt patriotique et plutôt positive. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de collaborer avec lui. Je suis rentré en contact avec lui par le Guardian.
Il avait encore un téléphone.
Il a tous les téléphones qu'on veut parce que de toute façon, il sait mieux que personne, non pas comment ne pas être suivi, mais tout le monde le suit aujourd'hui. Ouais. Et donc, on a eu une première vidéoconférence au studio où on s'est parlé. Je lui ai expliqué le projet de faire un morceau qui soit c'est un morceau techno assez speed, je dirais.
Et il fait quoi, lui, exactement?
Oui, c'est quoi, spoken word?
En fait, je lui ai demandé qu'il puisse parler, qu'il fasse une sorte de talkover sur le morceau, qui en fait, en prenant les moments les plus forts de ce qu'il a à dire là-dessus, sur le fait qu'on est violé dans notre vie privée. Et donc, je lui ai demandé, une fois qu'on a enregistré ça, à travers vidéo interposée, de le rejoindre à Moscou, là où il se trouve, pour qu'on filme ce qu'il avait fait pour qu'on puisse le retrouver dans les concerts, dans le morceau que je jouerai live.
Je suis allé à Moscou pour
le rencontrer et on a filmé il y a quelques semaines en fait.
On peut voir d'ailleurs sur YouTube.
Il y a une vidéo qui est sur YouTube en ce moment qui raconte un peu l'histoire de ce que je viens de résumer.
Et dans un instant, on tirera au sort l'une d'entre vous qui repartira avec cet album prévu le 6 mai. Envoyez Electronica par SMS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Et dans la suite, on reviendra avec Manu Di Pietro sur quoi, Manu?
Un mezzé de l'actu.
Ça nous met en appétit, on a envie.
C'est sur les feuilles de vigne.
Allez, c'est parti.
Ça mérite un shot. Tu m'as fait boire. Je ne bois jamais.
Ouais.
Donc je vais me venger.
D'accord.
La première jusqu'à 17h30, c'est presque sérieux.
Dernière ligne droite en ce vendredi, nous vous accompagnons.
Et dites, oui, maintenant qu'il est parti. 67 ans, il a.
Il ne les fait pas du tout.
Il fait 45.
Il ne les fait pas du tout, vraiment incroyable. Pas du tout. C'est incroyable. Comme quoi la musique électronique, ça conserve.
Il est toujours là.
Tiens, il semble que la pratique de la consommation d'alcool à la façon du gavage de dinde de Noël se répand également chez nos élites. Le problème, c'est que ça se voit un peu trop désormais, n'est-ce pas, mon cher Manu?
Mais oui, Walid, bonjour à tous. L'actualité n'est pas toujours tendre pour qui veut la commenter. J'étais prêt ici à faire une chronique éclairée sur les rouages de notre société médiatique, sur le zeitgeist hystérique mortifère démoniaque que nous vivons. Vous prouvez par A plus B que si le corps de Cyril Hanouna ne descend pas directement du singe, son cerveau, lui, est manifestement composé de morceaux simiesques radioactifs récupérés dans une décharge du laboratoire de produits L'Oréal et assemblés dans un ordre aléatoire dans un atelier protégé situé dans les catacombes de Prague. Que la chaîne D8, où il sévit, la petite sœur de Canal+, atteinte de Zika, n'est qu'un énorme décor où est enfermée la lie d'humanité, filmée 24h sur 24, en train de manger son caca. Et là, il a fallu que ce con de Prince meure. La course, toujours la course, et on se fait coiffer au poteau par un nain lubrique amateur de chemises à jabot. Avouez qu'il y a de quoi pester, il a même réussi à niquer la surboume d'anniversaire de la reine Elisabeth. Mais bon, en fait, Cyril Hanouna, Didier Morville, et l'autre pantin décérébré qui, de toute façon, avait une tête à claque, j'en ai autant à foutre que vous du gagnant de The Voice de l'année dernière, mon cher Walid.
Heureusement, c'est méchant.
C'était quoi son nom déjà?
Quoi, elle s'appelle Laura?
Non, de l'année passée.
De l'année passée, j'ai dit.
C'est Florent Braque.
Ah oui.
Ah bah bien joué.
Ah oui, il est revenu.
Il est revenu.
Et non, c'était vraiment bien son CD.
Ouais, c'est bien.
On l'a acheté.
Ça va? Heureusement pour Prince, parfois ça arrive, une terrible nouvelle est compensée par un rayon de soleil. Morane doit arrêter de chanter. Si nous lui souhaitons ici un prompt rétablissement, qu'elle n'hésite surtout pas à reposer son organe le plus longtemps possible. Non, ce dont je voulais vous entretenir, c'est que manifestement, l'alcool est devenu un fléau de plus en plus visible au sein de nos élites. La semaine dernière, j'ai découvert, comme vous, le spectacle de cet homme ivre venu perturber la tenue de la nuit debout place de la République à Paris. Incohérent, vitupérant, titubant. Alain Finkielkraut, ravagé par un élixir manifestement frelaté, se faisait vertement rembarrer de l'événement. Alors qu'il était venu avec les meilleures intentions du monde, il trouvait que le mouvement commençait à s'essouffler. Il était donc venu leur fredonner un morceau de circonstance.
Ah, c'était pour ça votre question technique à Jean-Michel Jarre.
Vous auriez dû le faire en...
Oui, voilà, pauvre Cohn, il s'est un petit peu énervé sur la fin, évidemment, puisqu'on l'a rembarré.
Il s'est énervé aussi.
Vous savez comment c'est quand on ne tient pas l'alcool, on devient agressif. Et aujourd'hui, paf, il a recommencé pour faire un hommage à Prince. Il a posté ça sur sa page Minitel, où il déteste Internet, soi-disant Alain. Je ne suis pas certain que ça va lui permettre de retrouver un semblant de dignité, cette affaire. En Belgique, même chose. Regardez Jean-Claude Van Kouenberg dans l'Écho. Vous avez lu son interview, donc « J'attends que le PS me réhabilite ». Un type chez qui l'expression « pot de vin » convient autant à l'apparence physique qu'à la ligne politique. L'encre du tribunal où il a été blanchi pardon, de 2534 affaires le concernant est à peine sèche, qui lui a frappé à la porte de Paul Magnette, comme une ex-avinée qui débarquerait à 5h du matin. Après les recettes pompettes, la RTBF vous propose la politique pompette. Vas-y, Polo, reprends-moi, salope! Faux socialiste! Traître! Métrosexuel! Voilà encore un beau concept à développer, je trouve.
Ah, Manu Di Pietro, une chronique et une émission que vous allez pouvoir retrouver sur le site de La Première en podcastant l'émission en deux jours. Eh bien, c'est déjà la fin de cette émission.
Non, on l'a pas vu passer.
Ah, bah, ça passait tellement vite et on sera de retour dès lundi avec une demoiselle, oui, Chloé Floira, qui viendra nous parler de critique et d'art, oui, dans son livre illustré. Pas mal pour de l'art aux éditions
Marabout. Elle va sentir seule.
Elle explore notre regard sur l'art.
Elle va nous parler d'un truc sur le lard, c'est ça.
Soyez là lundi. Soyez là lundi. Laissez-moi remercier Vincent Flibustier.
Merci Walid.
Fred Dubus.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à Manu Di Pietro.
Merci à vous, Chou.
Merci Cynthia Isarelli.
Au revoir.
Merci Raoul Reyers.
Mais bon week-end.
Ouais, il va être court, vous savez ce que c'est, mes week-ends.
Vous travaillez encore jour et nuit.
Ouais, je travaille encore
donc
demain.
Donc c'est fait, vous êtes chez G4S maintenant.
Je continue à bosser. J'ai trop de boulot. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette semaine se termine et elle se termine bien avec Arnaud Rüssen qui vous informe cette fois-ci sérieusement dès 17h30. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous sur la page Facebook pour repartir avec pas mal de cadeaux et rendez-vous lundi dès 16h pour un nouveau numéro de C'est presque sérieux.
La première podcast.